France Culture.
Des relations de voisinage qui se tendent, se négocient, s'apaisent puis se tendent à nouveau. Mexique et Canada sont dans le viseur commercial et sécuritaire de leur voisin direct, les États-Unis de Donald Trump. Or pour le Mexique, les relations avec son voisin du Nord ont pris depuis une trentaine d'années une importance capitale. Depuis 1994, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par 8 et 83% des exportations du Mexique sont désormais à destination des États-Unis, représentant ainsi 490 milliards de dollars, soit un quart du PIB mexicain. Une relation d'interdépendance donc, symbolisée par des structures bien spécifiques qui témoignent de cette histoire commerciale à la frontière. Les maquiladoras, usines d'assemblage où rentrent des pièces détachées et d'où sortent des produits finis destinés à être exportés, c'est le cas pour la plupart d'entre elles. Ces zones franches ultra localisées mises en place dans les années 60 racontent une histoire de jumelage avec les États-Unis, mais aussi en creux toute la politique commerciale, industrielle mais également agricole du Mexique qui a tenté de réduire les déséquilibres entre ses états du Nord et ceux du Sud, zones particulièrement soumises aux bouleversements nationaux et internationaux qui touchent donc directement la population mexicaine. Les maquiladoras sont aujourd'hui notre lieu de l'écho dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde par Élise Leu et Théo Menudier qui assure aujourd'hui la liaison depuis les studios d'ici à Montpellier. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Alain Musset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe à l'Institut universitaire de France et vous êtes l'auteur d'un Que sais-je, un format bien pratique pour tout comprendre au Mexique, paru aux presses universitaires de France en 2017. Et vous êtes donc avec nous à distance, également avec nous à distance depuis les fameux studios d'ici à Montpellier. Éric Léonard, vous êtes socio-économiste et géographe à l'Institut de recherche pour le développement. Vous avez dirigé avec Emilia Velasquez le dossier « Gouverner les hommes et les ressources, légitimité et citoyenneté » paru dans les cahiers des Amériques. Éric Latine, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
De nombreuses entreprises ont investi leur argent au Mexique. Avec l'imposition de droits de douane, elles subiront une taxe supplémentaire. Et comme il est dit que si elles ne veulent pas se voir imposer des droits de douane, elles peuvent délocaliser leur entreprise aux États-Unis, cela entraînera du chômage.
À l'heure actuelle, l'incertitude règne dans l'industrie maquiladora. Ce qui est certain, c'est que nous sommes plus désavantagés à la frontière que dans d'autres parties de l'intérieur de la République mexicaine. En effet, 60% de l'emploi formel, en généralisant à l'ensemble de la frontière, dépend fortement de l'investissement direct étranger et dans notre cas, de l'industrie maquiladora.
Ça nous perjudique parce que vous savez que les exportations, les maquiladoras, les...
C'est sûr que cela va nous affecter. Il n'y a qu'à voir les exportations, les maquiladoras, les files d'attente sur les ponts. Le dollar a déjà augmenté. Peut-être que le prix de l'essence va augmenter. Et alors, si le prix de l'essence augmente, tout augmente, en particulier le dollar.
Voilà, on entendait à l'instant un vendeur de rue, le directeur de l'Association des entreprises transfrontalières du Mexique et puis un chauffeur de taxi. Tous témoignent des conséquences très concrètes ou en tout cas des inquiétudes que font peser les menaces de Donald Trump en termes de tarifs douaniers. Ces témoignages que l'on vient d'entendre ont été récoltés à Ciudad Juárez, la métropole mexicaine qui se trouve au sud de la ville texane d'El Paso, dont elle est séparée par le fleuve Rio Bravo et où 60% de la population active est employée dans ces fameux maquiladoras. Près de 20 millions de voitures transitent chaque année par ces ponts et par les douanes de Ciudad Juárez. Éric Léonard, on parle ici de l'industrie automobile, mais pour commencer à avoir un premier aperçu de ce que sont ces maquiladoras, toutes sont-elles pour autant industrielles ?
Alors, il y a une énorme diversité de configurations et de secteurs représentés dans ce qu'on peut qualifier de façon très large les maquiladoras. Mais c'est pas seulement des entreprises industrielles d'assemblage tout simple. On a eu une énorme diversification depuis une trentaine d'années, depuis la ratification de l'ALENA, de ces industries, de ces entreprises qui ont investi des secteurs comme celui ou également de la production de logiciels, de software. Et puis, États-Unis, une dimension qui a existé depuis les années 60 et même avant, ça concerne aussi tout un secteur agro-exportateur. Alors, on ne parle pas là de simple assemblage, mais effectivement, il s'agit d'activités qui sont très intensives en main-d'œuvre et qui ont été délocalisées par notamment les chaînes de supermarchés nord-américaines vers le Mexique pour s'approvisionner en produits très intensif en main-d'œuvre, de fruits, de légumes notamment. Et donc, ça revêt une grande diversité de configurations qui s'étend donc de l'industrie à l'agricole. Et puis, c'est pas seulement la frontière, puisque depuis une trentaine d'années, on a également eu un mouvement de descente de ces activités, même d'assemblage, vers le centre et voire le sud du pays, à la recherche toujours d'une main-d'œuvre bon marché et de plus en plus féminine, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
On va tout à fait revenir sur cette sociologie des travailleurs et à plus forte raison des travailleuses qui effectivement sont employées dans ces fameux maquiladoras. Donc on le comprend, toutes ne sont pas concentrées autour de cette frontière longue de 3000 km qui sépare le Mexique des États-Unis. Il y a eu ce mouvement historique effectivement de redescente. On va voir tout de même que tout part quand même de là. Alain Musset, à ce stade, il faut peut-être nous rappeler ou nous apprendre le concept derrière ces maquiladoras. On l'a compris, il s'agit à la fois d'usines d'assemblage, mais aussi d'exploitation agricole, voire plus récemment de secteurs plus numériques avec le software, entre autres, la production de logiciels. Pourquoi la perspective de droits de douane à destination des États-Unis inquiète autant ces structures? Est-ce que c'est parce qu'elles ont justement bâti leur modèle économique sur une exemption de droits de douane? Est-ce que c'est ça aussi un des dénominateurs communs?
Effectivement, le grand dénominateur commun de toutes ces industries qui sont largement destinées à l'exportation, c'est qu'elles bénéficiaient au départ de droits de douane, d'exemption d'impôts, une sorte de statut privilégié, une sorte de grande zone franche. Il y avait une très grande zone franche sur tout le long de la frontière, avec 20 km de profondeur. C'était ce qui avait été décidé par le gouvernement mexicain pour installer ces usines. Et c'est quelque chose qui s'est, vous l'avez dit, qui s'est installé au début des années 1960. Alors pourquoi? C'est tout simple. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis et notamment dans le domaine agricole. Donc, il y a eu tout un programme qui a été mis en place, qu'on appelait le programme de la main-d'œuvre, justement les braceros, avec des contrats qui étaient des contrats à durée déterminée. On pouvait partir de l'autre côté de la frontière, travailler, envoyer de l'argent, et puis ensuite on devait revenir. Mais à la fin des années 50, début des années 60, le gouvernement nord-américain a décidé d'interrompre ce programme, d'arrêter, parce que ça faisait de la concurrence de main-d'œuvre, et on a décidé, en fait, d'arrêter les migrations. C'était le but du côté nord-américain, à dire, écoutez, ne traversez pas la frontière, restez de l'autre côté, on va vous fournir du travail, et comme ça, tout le monde sera content. Vous serez gagnant parce que vous n'aurez pas besoin de traverser, vous n'aurez pas besoin d'avoir toute une série de papiers pour vivre de l'autre lado, encore une fois. Nous, on aura de toute façon votre travail. Et le gouvernement mexicain a lancé ça. C'est en 1961 qu'il y a un grand programme national frontalier qui a été lancé, qui a été ensuite, continué par un plan d'industrialisation de la frontière au nord du pays. Et il s'agissait là pour le gouvernement mexicain de profiter de cette main-d'œuvre qui était sur place, qui se pressait un petit peu à la frontière, et aussi d'offrir des conditions idéales pour les Nord-Américains, une bonne main-d'œuvre, pas bien payé, pas syndicalisé, assez docile, avec un pouvoir qui était un pouvoir très dur au Mexique encore à l'époque. Et donc, c'était très avantageux. Les entrepreneurs mexicains se sont lancés dans l'aventure, bien évidemment. Il y a eu quelques personnalités. Je pense par exemple à Rodolfo Nelson Barbara. C'est lui qui a fondé la première maquiladora à Mexicali. Il l'a fait après un voyage au Japon, en Corée et à Taïwan, pour dire on peut faire la même chose. Donc l'idée, ça a été de se dire nous sommes gagnants, les Mexicains restent au sud, on utilise leur main-d'œuvre et le gouvernement mexicain a favorisé le développement de toute une grande zone dans un espace qui était semi-désertique et qui est devenu le grand pôle industriel manufacturier du pays et de la nation tout entière.
Alain Musset, on comprend bien à travers ce que vous nous racontez que finalement c'est un accord qui convient relativement à tout le monde, en tout cas aux deux gouvernements de chaque côté de la frontière. On voit l'avantage pour les États-Unis. Je me demande quand même pourquoi le gouvernement, alors même que vous venez de le dire, Alain Musset, le gouvernement était plutôt très dur à cette époque-là, pourquoi le gouvernement a peur de ces milliers de Mexicains au chômage? C'est quoi? C'est l'idée d'une colère sociale au nord du pays qu'il ne pourrait pas gérer? Pourquoi il met en place finalement ce système des maquiladoras? Est-ce que c'est pour acheter une forme de paix sociale? Est-ce que c'est pour avoir un objectif plus large économique? Comment comprendre cette volonté-là et ce volontarisme même?
On est dans au début des années 1960. L'économie du Mexique est encore, il faut le dire, très rurale. À part l'industrie pétrolière, c'est la Pemex, les pétroles mexicains, c'est la grande entreprise nationale qui a été nationalisée en 1938 et donc qui est devenue l'orgueil de la nation. Les exportations, c'était essentiellement les produits de l'industrie du pétrole, gaz, hydrocarbures, etc., etc. C'était une opportunité pour le gouvernement mexicain de changer les choses, de changer de structure, de passer à une économie fondée non pas sur l'exportation finalement de minéraux d'hydrocarbures, mais des produits manufacturés. Et ça a été une vraie réussite. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui a transformé l'économie complète du pays.
On va revenir sur les conséquences et sur cette transformation très globale du pays. Avant cela, Éric Léonard, je crois que vous souhaitiez réagir. Et puis moi, j'ai envie de vous poser une autre question. C'est dans quelle mesure, finalement, cette volonté du gouvernement peut être considérée à travers les maquilladoras comme un modèle de développement en soi? Est-ce que c'est présenté comme tel à l'époque?
Moi, je voulais simplement intervenir sur les enjeux de géopolitiques qu'il y a derrière également ce grand programme d'investissement et de développement industriel à la frontière. Il faut revenir un peu à l'histoire très compliquée des relations entre le Mexique et les États-Unis, avec une guerre de 1847-1848, à l'issue de laquelle le Mexique perd la moitié de son territoire, et donc des enjeux très très forts de contrôle de la frontière à travers le peuplement, à travers le développement économique et le développement d'activités qui vont permettre aussi de stabiliser ces régions dans un contexte aussi où les rapports entre le Mexique central, le pouvoir central et les élites du Nord, les élites norteñas, qui sont déjà industrialisées en particulier dans la région de Monterrey et celle de Saltillo, sont un peu compliqué par le système de régulation très centralisé des rapports entre entreprises et travailleurs, notamment dans le cadre d'un corporatisme syndical qui revêt une dimension politique systémique. Et donc, le processus de développement des maquiladoras va aussi relever d'une renégociation beaucoup plus vaste des rapports entre le Mexique central et les élites du Mexique central et toutes ces régions frontalières qui étaient peu peuplées, mais qui revêtaient un intérêt stratégique considérable.
Alain Musset, on comprend qu'il y a là des raisons nationales, on va dire, en tout cas de cohésion du territoire, mais de cohésion politique aussi entre les États du Nord et puis ce gouvernement centralisé, on l'a dit, sachant que Mexico est beaucoup plus au sud, pour ceux et celles qui n'auraient pas la carte en tête. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de réaffirmer dans tout début de ces années 60 une relation spécifique avec les États-Unis qui effectivement ne date pas d'hier?
Alors effectivement, je dirais, Éric a tout à fait raison. Il y a ces géopolitiques au niveau national et au niveau international, pour dire en fait au niveau régional continental. En 1981, il y a un journaliste nord-américain, Joël Garreau, qui a publié un livre qui a fait scandale ou qui a suscité l'enthousiasme ou beaucoup de critiques, qui s'intitulait « Les neuf nations de l'Amérique du Nord ». De l'Amérique du Nord. Le Mexique fait partie, on a tendance à l'oublier, de l'Amérique du Nord. Et il a, je dirais, diffuser l'idée d'une notion qui a été très controversée, mais qui a ses bases, c'est la Mexamérique. La Mexamérique, le mélange de Mexique et d'Amérique, qui, en fait, engloberait tous les États du nord du Mexique et, en gros, les États du sud-ouest des États-Unis. Et effectivement, il y a là une sorte d'unité culturelle. Il y a beaucoup de populations qui sont d'origine hispanique et mexicaine. De l'autre lado, East Los Angeles, qui est un grand, grand quartier de Los Angeles, c'est une population à 92 ou 93% latina. Hein, donc vous voyez, c'est très important. L'espagnol est une langue communément parlée. Je veux dire, même si vous parlez pas anglais, vous pouvez vous débrouiller de l'autre côté. Il y a toute une série de liens culturels. Les fameux Tigres del Norte, c'est un groupe qui chante des corridos, des chansons traditionnelles mexicaines. Ils ont même leur étoile maintenant, je veux dire, à Los Angeles, sur le Hall of Fame. Il y a le groupe rock Calexico, la fameuse cuisine Tex-Mex, j'aime pas du tout, le chili con carne, etc. Tout le monde croit que c'est mexicain. Ce n'est absolument pas mexicain. Ça fait bondir les Mexicains. C'est de la musique texane mexicaine. Donc, tout ça, ça existe. Et finalement, cette zone frontière et la frontière elle-même, de manière tout à fait paradoxale, alors qu'elle divise vraiment deux mondes, un monde hyper développé nord et dans les années 60, un monde qui était à peine émergent, le Mexique, cette frontière devient paradoxalement la colonne vertébrale de la Mex-Amérique avec cette diffusion de l'industrie manufacturière qui va lui donner une identité, une puissance économique et qui va faire basculer vers le nord une grande partie du centre de gravité du pays qui était alors concentré essentiellement à Mexico, comme l'a dit Eric.
Alain Musset, on comprend que cette notion de Mex-Amérique, finalement, c'est cette très vaste zone finalement qui est constituée à la fois du nord du Mexique, mais aussi du sud des États-Unis, et donc de ces fameux États que le Mexique a perdu au profit des États-Unis, on l'a dit tout au long du 19e siècle, entre 1836 et 1853, le Texas, la Californie, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, c'est donc toute cette vaste zone-là qui est qualifiée de Mex-Amérique. Vous avez dit que cette notion-là était controversée, cette notion inventée par le journaliste Joël Garraud. Pourquoi est-elle controversée ?
Elle est controversée parce que il y a les Mexicains du centre, ils disent non, mais attendez, mais c'est quoi cette affaire ? C'est encore un journaliste nord-américain qui décrète ça, et c'est un petit peu pour nous déposséder. Mmh. Je voudrais faire une petite comparaison. La tortilla, qui est quand même, vous savez, la galette de maïs, qui est typique de la nourriture mexicaine, c'est la tortilla de maïs. Au nord, la tortilla, c'est la tortilla de blé. C'est-à-dire deux civilisations qui ne sont pas exactement identiques. Et donc, le fait de dire que cette Mex-Amérique serait à part du Mexique, ça a tendance à irriter un petit peu les nationalistes mexicains. Et de l'autre côté, aujourd'hui, les trumpistes, c'est quoi cette affaire ? Nous, on est états-uniens, on est nord-américain, il n'y a pas d'idée générale sur la Mex-Amérique. Une anecdote qui me paraît vraiment très importante pour comprendre là aussi ce qu'a dit Eric. C'est une blague que racontent les Mexicains. C'est l'histoire d'un Mexicain qui franchit la frontière, donc c'est un wetback, et il va de l'autre côté et il découvre Austin, Texas, il découvre le musée de l'espace, ensuite il va en Californie, il voit les champs, les cultures, l'élevage, il dit chaque fois, mais c'est prodigieux, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, et puis il arrive évidemment à Disney World, il dit, mais c'est fabuleux, mais c'est extraordinaire. C'est salaud de gringos. Ils nous ont volé ce qu'on avait de mieux. Donc, vous voyez, il y a cette relation sans arrêt d'admiration et de répulsion et de contentieux permanent entre les deux pays. Et ça, je crois que c'est important de le noter pour expliquer pourquoi la notion de Mex-Amérique, elle est controversée, même si, à mes yeux, elle a tout à fait son sens.
Et puis par ailleurs, Alain Musset, ça nous permet, au-delà des mises au point nécessaires gastronomiques que vous venez de faire, ça nous permet aussi de comprendre cette relation États-Unis-Mexique à travers autre chose qu'une simple relation de dépendance. On a dit, je l'ai dit d'ailleurs en introduction, 80% des exportations du Mexique sont à destination des États-Unis. Il serait tout de même faux, Alain Musset, de dire qu'il y a une dépendance du Mexique aux États-Unis. C'est vraiment une relation qui va de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, on pourrait le dire, ce n'est pas unilatéral comme relation, et notamment économique et commerciale.
Mais bien sûr, et d'ailleurs, quand au début des années 80, il y a eu une grosse crise financière au Mexique, les États-Unis ont été les premiers à intervenir pour éviter que le Mexique plonge. Vous imaginez plus de 100 millions d'habitants qui se retrouvent dans la panade absolue et qui déjà voulaient passer de l'autre côté, c'était pas possible. Donc, il y a une vraie interdépendance, une interdépendance qui est liée aussi tout bêtement au remessas, les remises, l'argent qui vient des États-Unis et qui va vers le Mexique, parce que ce sont les gens qui travaillent. Je veux dire, aujourd'hui, à peu près, on estime que ça peut représenter jusqu'à 4% du PIB national, selon les données de la Banque du Mexique, selon les années aux entours de 50 milliards de dollars. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, Trump dit, on nous vole. Tous ces Mexicains-là qui envoient de l'argent en bas, ils veulent l'argent des États-Unis. Et ces relations, elles sont très, très fortes. Elles, beaucoup plus fortes du côté des exportations. Et si jamais... Et on y reviendra, on commence à taxer les produits qui viennent du Mexique, il va y avoir un coût à payer pour les consommateurs américains. Je veux dire, les tomates vont coûter beaucoup plus cher, la tequila, bon, c'est pas bien grave, à la limite, ça va coûter plus cher, mais surtout, les produits manufacturés, si on décide de taxer, par exemple, toute l'industrie automobile et tous les composants automobiles, je veux dire, il y a à peu près plus de 1000 établissements, selon les dernières données, qui produisent des équipements de transport, et l'essentiel va aux États-Unis. C'est plus d'un million de travailleurs au Mexique. Donc, si on les taxe, bien sûr, ça va coûter cher au Mexique, mais ça va coûter très, très cher aussi aux habitants qui habitent de l'autre côté de la frontière.
Et du reste, le risque d'inflation est très souvent mobilisé, agité en tout cas aux États-Unis face aux mesures que Donald Trump entend mettre en place. Éric Léonard, vous souhaitiez également réagir sur cette notion d'interdépendance entre les deux pays.
Absolument, on peut parler de symbiose. Il ne faut pas perdre de vue également la dépendance que certains secteurs stratégiques aux États-Unis ont vis-à-vis de la main-d'œuvre clandestine, en grande partie, mexicaine et centra-américaine. On parle des services aux personnes, on parle de tout ce qui est main-d'œuvre agricole intensive dans les secteurs maraîchers et fruitiers, dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'emballage et du conditionnement, notamment dans les bassins industriels qui sont développés dans les Appalaches qui ont porté dernièrement Donald Trump au pouvoir, qui sont occupés massivement par de la main-d'œuvre d'origine latino-américaine. Et là encore, ça a eu un effet très fort dans la contention de l'inflation et dans la compétitivité des productions américaines vis-à-vis dans le marché international et vis-à-vis des importations.
Et je reviens à l'origine, on va dire, de la création de ces fameuses maquiladoras qui prennent de toute façon corps, on va dire, dans ce contexte de ces relations avec les États-Unis qui, on le voit, sont marquées certes par une certaine conflictualité, au moins depuis le 19e siècle, mais aussi ces rapports, on va dire, de bonne entente ou en tout cas de partenariat commercial qui sont symbolisés par ces maquiladoras. Alain Musset, je voudrais juste faire une petite parenthèse. On l'a dit, les maquiladoras, c'est le secteur agricole, c'est évidemment le secteur plus industriel et notamment le secteur automobile, de façon beaucoup plus récente, donc je vais le laisser de côté pour l'instant, puisqu'on est toujours au début des années 60, il y a ces fameux logiciels informatiques. Mais très clairement, le Mexique, dans les années 60 et puis bien après, est aussi une nation qui produit une autre ressource qui est assez valorisée, c'est celle du pétrole. Alors, il y a beaucoup de fluctuations, mais en 1921, le Mexique est le deuxième producteur mondial de pétrole brut. Il fournit un quart de la demande internationale. Alors, sa production appartient alors essentiellement à des compagnies étrangères. Et puis en 1938, il y a une vague de nationalisation. En 1970, le président López Portillo décide de relancer la croissance économique en exportant massivement les hydrocarbures, qui représentent de fait 75% de la valeur des exportations, oui, en 1982. On pourrait se dire que le Mexique n'a pas forcément besoin des maquiladoras. Elle a le pétrole et ça peut être une manne économique en soi. Est-ce que les maquiladoras peuvent être vues comme une volonté de diversification aussi de l'économie mexicaine ?
Mais bien sûr, c'est le but, un des buts, des maquiladoras, c'est d'entrer dans la modernité de l'industrie manufacturière. On peut vivre de ses rentes, et le problème, c'est que l'économie pétrolière, c'est une rente. On exporte du pétrole brut qui va être de toute façon raffiné aux États-Unis, en très grande partie. Donc, la plus-value, est faible. Alors, ça a pu représenter jusqu'à 75 et même 80% hein, des revenus du Mexique, mais il fallait faire autre chose. Et aujourd'hui, c'est une réussite. L'industrie manufacturière est passée devant les exportations de pétrole et d'hydrocarbures de manière générale. Ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, et là, c'est, excusez-moi, c'est le géographe qui parle, c'est qu'on a transformé l'économie, mais aussi le territoire mexicain. Cette zone, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est important, qui était vraiment abandonnée, perdue, Tijuana, au début du XXe siècle, c'est 500 habitants, hein, c'est rien du tout. Alors maintenant, on dépasse le million. Donc, on a une industrialisation, on a une urbanisation et on a une poussée démographique. Et ce qui est intéressant, quand je parlais de colonne vertébrale de la Mexamérique, c'est que sur le plan purement géographique, ça se manifeste de manière très claire. On a créé ce qu'on appelait des usines jumelles, des twin plants. Hein, une usine en haut, une usine en bas, au nord, au sud, avec l'usine du nord qui planifie, qui organise, etc. Et l'usine du sud qui, elle, va se consacrer à, je dirais, vraiment tout le processus de fabrication. Ces usines ont servi de base, en fait, à la création de villes jumelles. Et tout le long de la frontière, on a des villes jumelles. Hein, vous avez parlé de Ciudad Juárez avec El Paso, mais vous avez Tijuana, San Diego, vous avez Mexicali, Calexico, Ojinaga, Presidio, on peut multiplier. Donc il y a toute une nouvelle géographie qui s'est mise en place et qui est aussi très symbolique. Si je puis me permettre un petit exemple, c'est Mexicali, la ville de Mexicali. C'est au début du XXe siècle c'est un petit trou, hein, de rien du tout. En fait, les militaires mexicains rencontrent les militaires nord-américains et décident de dire, là, on va installer un poste de frontière. Et symbolique de la Mexamérica, qu'est-ce qu'ils disent? La ville qui sera au sud, ce sera Mexicali. Mexicali, Mexico, Californie. Et la ville du nord va être Calexico, Californie, Mexico. On a là, symboliquement, la création, effectivement, de cette Mexamérique qui a fini par s'imposer sur le plan régional et même international.
Éric Léonard, c'est extrêmement important parce que, en fait, effectivement, au-delà de la simple stratégie économique ou industrielle, on comprend qu'il y a une volonté de rééquilibrage aussi au niveau territorial. Vous l'avez dit, hein, les maquiladoras sont des structures qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Donc, on imagine bien qu'il y a des mouvements de population assez forts à partir du moment où il y a de la demande de main-d'œuvre à ces endroits-là. Est-ce que, effectivement, c'était dans l'objectif du gouvernement de l'époque, dans les années 60, que de vouloir rééquilibrer, et notamment en termes de démographie et de population, les États du Nord et ceux du Sud?
Absolument. Et puis avec un effort d'investissement public considérable pour créer et acheminer des ressources comme l'électricité, comme l'eau, qui est absolument vitale pour ce développement. Et donc, effectivement, un rééquilibrage des relations entre le centre, sud et le nord, qui va paradoxalement se traduire par un hiatus croissant en termes de niveau de vie, de revenus par habitant, de niveau de développement, au détriment des régions du sud, du Mexique, plus rurales, plus agricoles, plus traditionnelles, plus indigènes aussi. Hein. Il faut savoir que 90% de la population d'origine autochtone amérindienne se trouve dans les régions du centre et du sud. Et donc, dans les régions du nord, Alain en a parlé, on a une identité qui est spécifique, particulière, beaucoup plus métisse, voire européenne, et dont le phénomène des maquiladoras va encore renforcer en termes de spécialisation et d'identité économique industrielle opposée à un sud qui est perçu comme essentiellement rural et plus attardé. Et ça se traduit par des écarts de développement en termes d'équipement, en termes de biens publics, en termes de niveau de vie, qui vont encore s'accroître avec la mise en œuvre de l'ALENA et tout cela étayé par des politiques publiques sectorielles très ciblées en termes spatiales et géographiques.
Éric Léonard, il faut peut-être nous donner aussi quelques éléments de contexte sur qui est au pouvoir à ce moment-là. En 1938, le Parti National Révolutionnaire est transformé en Parti de la Révolution Mexicaine, qui devient en 1946 Parti Révolutionnaire Institutionnel, soit son nom actuel, qui tient un discours relativement tiers-mondiste et qui est au pouvoir à partir de la Constitution de 1917 et qui va rester très très longtemps au pouvoir. Est-ce que ce flux de population, cette reconfiguration à la fois territoriale mais aussi aussi sociologique également, parce que ça génère quand même des transformations en profondeur que ces mouvements de population-là. Est-ce que ça va avoir un impact politique? Est-ce qu'on va avoir des changements, on va dire, dans les habitudes de vote notamment?
Alors, tout à fait. Au départ, on a un pacte national qui se construit, notamment avec les élites industrielles et bancaires du nord du pays. Je pense au bassin de Monterrey et son prolongement dans la ville voisine de Saltillo, qui se spécialise dès le début du XXe siècle et à plus forte raison à partir des années 30, avec la mise en œuvre de ce projet de développement par substitution des importations, autour de l'industrie lourde et le développement du secteur bancaire, avec énormément de succès. Et puis ce modèle auto-centré d'industrialisation lourde commence à entrer en crise à partir des années 60, 70. Et là, effectivement, il y a un besoin manifesté par ces élites de renouvellement de ce secteur industriel, de diversification. Et la proposition de développement du secteur de maquiladora va apparaître comme une opportunité excellente. Alors, tout ça se fait dans un contexte où le Mexique, depuis son indépendance, mais en particulier après la révolution des années 1910 et le gouvernement de Lázaro Cárdenas, entre dans une phase d'extrême centralisation du pouvoir qui s'appuie à la fois sur un appareil étatique très fort, mais aussi tout un système corporatif où les différents secteurs de la population, notamment le secteur ouvrier, le secteur paysan, sont fédérés dans des syndicats uniques qui sont des piliers du Parti révolutionnaire institutionnel. Et ça c'est extrêmement fonctionnel au plan politique et de régulation économique en période de bonanza. En revanche, ça commence à devenir tendu et dysfonctionnel à partir des années 60-70 avec une forte contestation qui s'exprime en particulier dans les États du Nord autour du parti Action Nationale, le PAN, qui va cristalliser les intérêts de ces élites norteñas et qui va arriver au pouvoir en 2000 à l'occasion de l'alternance produite par le démantèlement de ce système corporatif.
Là, c'est extrêmement intéressant. Alain Musset, on a un panorama, grâce à Éric Léonard, quasi complet de tous les acteurs qui sont en place à ce moment-là. Mais alors, ça me donne envie de poser plein de questions, mais notamment celle-ci. Très concrètement, s'il y a à la fois cette volonté, on va dire, des grands patrons de l'industrie lourde qui perdent de la vitesse au début de ces années 60, est-ce qu'on les retrouve pour autant à la tête de ces maquiladoras? Très concrètement, qui sont les employeurs? On va pas bientôt parler des employés, mais qui sont les employeurs finalement dans ces maquiladoras? À qui appartiennent ces usines qui sont dans ces fameux États du Nord proches de la frontière américaine?
Alors, c'est tout un problème parce que nous avons en fait une recomposition du tissu industriel qui est liée à la volonté même de mettre au sud des entreprises qui avant produisaient au nord. Donc, dans la plupart des cas, il s'agit d'entreprises dont le siège social, en fait, est aux États-Unis, mais qui vont créer des filières au Mexique, avec l'appui, notamment, comme Eric l'a dit, des grands industriels qui étaient notamment à Monterrey et qui le sont toujours, car le Nuevo León est un des grands États qui est un des grands États anciennement manufacturés. Et c'est toujours actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États où il y a le plus d'industrie maquiladora, il faudra qu'on revienne sur ce terme parce que ça a un peu évolué, hein, mais c'est toujours la Basse-Californie, le Nuevo León avec Monterrey et Chihuahua avec Ciudad Juárez. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est important parce que c'est parfois très difficile de retrouver l'origine, qui est réellement derrière. Moi, j'ai travaillé pas mal à Tijuana, et quand j'ai fait la liste des entreprises à Tijuana pour savoir d'où ça venait, j'ai souvent, par exemple, une entreprise qui est basée à Houston ou dans une autre ville américaine. Mais si on creuse un petit peu, on va découvrir qu'en fait, non, c'est beaucoup plus globalisé que ça. Le propriétaire derrière cette entreprise qui est basée à Houston va être, en fait, une entreprise japonaise. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui évolue. C'est donc très difficile de cerner qui est derrière quoi. Et moi, j'ai travaillé sur la construction automobile à Tijuana. J'ai 102, très exactement, établissements recensés dans le secteur maquiladora, hein, à Tijuana. Et sur ces 102, j'ai réussi à découvrir qu'en fait, il y en a 16 qui sont asiatiques, essentiellement Japon et Corée. Mais parfois, c'est évident, parfois non. Il faut aller chercher, il faut aller fouiller et on découvre la pépite. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très, très difficile aujourd'hui de voir la différence, d'autant que depuis les années 60, ça a beaucoup évolué. Et justement, beaucoup d'entreprises, notamment asiatiques, ont décidé de s'installer dans les zones de maquiladora pour profiter du marché américain, intérieur. Oui. Nord-américain.
Sur les, juste pour terminer, Alain Musset, sur les 102 établissements que vous évoquiez à Tijuana, vous avez dit 16 sont asiatiques. La répartition des 80 environ restantes, ça se répartit comment en termes de nationalité?
Alors, ça se répartit tout simplement entre des entreprises qui sont un mix États-Unis-Mexique. Plus quelques petits établissements. Alors là, on est dans les PME, parce qu'il y a aussi des PME. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, ce n'est pas que des trucs gigantesques qui, là, sont uniquement mexicains. Mais, et je parle des établissements pour la construction automobile. Hein, c'était le but de ma recherche principale. Mais c'est vraiment petit. Autrement, évidemment, à côté, on a Hyundai. Hein, vous voyez, et quand on a Hyundai, c'est quand même autre chose que le petit fabricant d'une portion de fauteuil pour les automobiles qui vont être ensuite réexportés. Vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant. C'est de voir qu'on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé, et c'est ce qui fait peur aussi à l'heure actuelle, parce que s'il y a de nouvelles taxes, est-ce que ça va devenir toujours aussi intéressant pour les investisseurs asiatiques ou d'autres pays de s'installer dans ces zones-là? C'est un vrai problème.
Et du reste, je crois que vous le dites dans votre ouvrage, Alain Musset, l'industrie maquiladora a toujours été un secteur d'activité particulièrement sensible à la conjoncture nationale et internationale. Et ça a été notamment le cas avec les attentats du 11 septembre 2001 qui avaient directement affecté le secteur, puisque de nombreux emplois avaient disparu à ce moment-là. Donc on voit que ce sont des zones particulièrement sensibles. Alain Léonard, j'en arrive à ma deuxième question par rapport à ce que vous nous disiez un peu plus tôt. Donc il y a à la fois l'interrogation que j'avais vis-à-vis de qui est à la manœuvre, qui est aux manettes finalement de ces maquiladoras. Est-ce que ce sont ces fameux industriels qui viennent réclamer leur dû auprès du gouvernement? Et ma deuxième question, c'est que vous avez dit, Alain Léonard, que...
Éric
Léonard, pardon, excusez-moi, que... j'ai confondu les prénoms. Éric Léonard, que les syndicats avaient été des piliers, finalement, au Mexique, ils avaient un réel rôle politique, une véritable influence. Et pourtant, vous nous avez dit que si les maquiladoras sont intéressantes, entre guillemets, c'est parce que le droit du travail y est peu ou mal, voire pas respecté, que les syndicats y ont un pouvoir très faible. Comment on explique cette lente amenuisement, on va dire, du pouvoir des syndicats, et précisément dans ces maquiladoras?
Je dirais que les maquiladoras, elles ont un peu préfiguré les transformations qui se jouent au Mexique à partir des années 80 et plus encore des années 90, avec effectivement une dérégulation du secteur du travail et de l'emploi. C'est le fait d'avoir un statut de zone franche, des montages qui étaient plus ou moins opaques en termes d'association entre entreprises nord-américaines et entreprises mexicaines, un statut encore une fois particulier de ces zones a permis de contourner la législation du travail qui obligeait pratiquement les travailleurs de la région du centre, le secteur industriel du centre du pays, de passer par le biais, l'entremise du syndicat officiel pour recruter sa main d'œuvre, et puis qui était sujet donc à des conventions collectives. C'est pas le cas qui opère dans les maquiladoras. Et donc, les performances même de ce secteur au long des années 60-70, 80, va également servir de levier pour remettre à plat l'ensemble de ces rapports entre syndicats et employeurs, et va inspirer d'une certaine façon toutes les mesures de démantèlement de la législation du travail qui va entrer en vigueur à partir de la l'ENA, et donc au cours des années 2000, 90-2000.
90-2000, donc c'était un premier orteil, on va dire, mis dans cette dérégulation du travail. Une autre modification aussi de la façon dont s'organisent ces maquiladoras, c'est, Alain Musset, le fait que les usines qui étaient dans un premier temps obligées de s'installer au niveau de la frontière au nord, on l'a dit, cette obligation-là saute au milieu des années 70, qui permet de fait, on va dire, une infusion, on l'a dit en tout début d'émission, vers le sud. Pourquoi cette obligation-là saute au milieu des années 70?
C'est surtout, honnêtement, l'ALENA. qui a tout changé. Parce que se passe-t-il avec les Vénéens? Et là, on est en 1994. Hein, en gros, le statut privilégié des usines qui sont installées dans la zona fronteriza, des 20 km au sud de la ligne frontière. Ce statut privilégié va être en fait très largement compensé par la libre circulation des produits, par la dérégulation, par la baisse des impôts, par le libre commerce. Après l'ALENA, finalement, à peu près toutes les usines qui veulent se tourner vers l'exportation peuvent s'installer à peu près partout. Elles vont en gros bénéficier des mêmes avantages. Donc on peut dire que là, ça pose un vrai problème pour l'industrie maquiladora elle-même.
Qui perd de fait son avantage compétitif.
Voilà, elle perd son avantage compétitif. Mais, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ça n'a pas entraîné de bouleversement. Comme je vous l'ai dit, la Basse-Californie, le Nuevo León et l'État du Chihuahua restent les endroits où cette industrie reste concentrée. Pourquoi ? Tout simplement, et bien justement, grâce à cette transformation de la géographie qu'a connue le Mexique, la zone frontalière est devenue une zone compétitive, avec de bonnes, très bonnes infrastructures, avec la main-d'œuvre, avec les relations déjà établies de part et d'autre de la frontière, et avec un autre avantage compétitif qui est tout simplement la proximité. Si vous voulez installer une industrie de transformation et d'exportation dans le Chiapas, il faut traverser tout le Mexique. Le coût du transport va être énorme. Là, vous franchissez juste la frontière. Donc, vous avez la trame industrielle locale et régionale qui est déjà là. Vous avez l'avantage des transports. Et donc, bien évidemment, vous avez la continuité. On suit le sentier. Il est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et c'est ce qui entraîne une des grosses transformations du système, c'est que depuis, en gros, 2006, les maquiladoras ne sont plus comptabilisées à part dans le système informatique et statistique du Mexique, l'INERI. C'est plus... Avant,
on ne prend même plus la peine de mesurer les avantages que cela peut engendrer.
Ben, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, il y avait vraiment le secteur maquiladora. Et pour moi, c'était plus facile de suivre toutes ces usines. Maintenant, c'est un programme qui s'intitule IMEX. C'est Industrie Manufacturière, Maquiladora et Services d'Exportation qui mêle, en fait, beaucoup de choses, entre autres les maquiladoras, bien évident dedans. Mais il n'y a pas que les maquiladoras. Donc, quand on dit, par exemple, que dans l'indice IMEX, il y a 1100 industries, établissements qui sont consacrés à l'équipement de transport, je ne sais pas exactement combien relève exactement du statut de maquiladora. Et ça, c'est encore une fois une transformation forte qui a été liée à ce traité de libre commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Juste une idée, à l'heure actuelle, dans le programme IMEX, on a un peu plus de 3 millions de personnes qui travaillent de manière indirecte ou directe dans le secteur. Je ne peux pas vous préciser, vous dire exactement combien font partie de l'industrie maquiladora stricto sensu. Vous voyez, c'est très difficile.
Alors nous allons voir quelles vont être les conséquences très concrètes de ces fameux accords de libre-échange nord-américain entrés en vigueur le 14 janvier 1994, au-delà de recherches rendues plus difficiles pour vous, Alain Musset. Nous allons voir que tout cela a des conséquences sur l'organisation du territoire et donc pour les populations qui étaient jusqu'ici employées auprès des maquiladoras. On en parle dans quelques instants.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos. Pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena. No creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena. No creas que
nous avons construit un jour n'est plus destiné à s'effondrer. Les relations entre le Mexique et les États-Unis pourraient être ainsi résumées par les paroles du titre Lo que construimos, interprété par la chanteuse mexicaine Natalia Lafourcade. Vous êtes bien sur France Culture et les maquiladoras mexicaines sont aujourd'hui notre lieu de l'écho, car elles symbolisent la façon dont le Mexique entend soutenir et organiser son industrie, mais aussi son agriculture, aujourd'hui fortement menacée par les annonces de Donald Trump en termes de droits de douane, et ce alors même qu'en 1994, nous le disions, entrait en vigueur l'ALENA.
Effacer progressivement la frontière commerciale entre les États-Unis et le Mexique, comme c'est déjà chose faite avec le Canada, voilà le but de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Le calcul est simple, Canada plus États-Unis plus Mexique égale 30 plus 250 plus 90 égale un marché unique de 370 millions de consommateurs ou de futurs consommateurs. Objectif du Mexique, un accord avec ses deux grands voisins du Nord rassurera les investisseurs étrangers et lui permettra de trouver les capitaux dont il a besoin pour mieux utiliser le dynamisme de sa population. Objectif de l'administration Clinton, 1. Faire disparaître complètement des barrières douanières encore défavorables aux États-Unis. Déjà, leurs exportations vers le Mexique ont quadruplé en 5 ans. 2. Rebondir ensuite vers les autres grands marchés de l'Amérique latine.
Éric Léonard, nous avons commencé à évoquer les conséquences de cet fameux accord de libre-échange, cette ALENA qui est donc entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Nous avons vu que ça avait reconfiguré finalement relativement à la marge le rôle des maquiladoras qui se sont vus voir leur avantage compétitif relativement on va dire effacé. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut se demander pourquoi finalement cet accord a été signé. Vous l'avez évoqué, je crois, un tout petit peu plus tôt, cette crise du tout début des années 80, de 1980. Et de fait, après cela, le Mexique adopte une posture plus générale d'ouverture, on va dire, commerciale. Le libre-échange prend une certaine place aussi dans cette politique-là. Il n'y a pas que l'ALENA. En 1986, le Mexique adhère au GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. En 1994, il devient membre de l'OCDE. Qu'est-ce que ça nous dit, Éric Léonard, finalement, de ce libre-échange qui est vu comme une solution, mais à quel problème que rencontre le Mexique à ce moment-là?
Alors on a une transformation longue et profonde de, on va dire, des pactes qui avaient fondé la création de l'État moderne, qui reposait très largement sur des alliances avec un secteur paysan qui était passé par une réforme agraire dans les années 1920, 30, 40. Dans le cadre duquel le secteur paysan, qui représentait une part assez considérable de la population, plus de 50% encore en 1950, va perdre de sa représentativité, de son pouvoir, et qui avec un modèle de protection, d'accompagnement, d'encadrement de l'agriculture paysanne qui s'essouffle dans les années 60-70, les gains de productivité qui avaient été réalisés à travers la réforme agraire, les grands programmes d'irrigation, touche un plafond de verre, on va dire, qui est lié à la petite taille des exploitations issues de la réforme agraire. Et à partir des années 70, ce secteur, on fait le constat que ce secteur n'est plus compétitif. Et dans le cadre des négociations de l'ALENA, c'est clairement le secteur qui va être sacrifié sur l'autel notamment d'une politique d'industrialisation, de mise en place de grands champions agro-industriels dans le secteur de la distribution et de la transformation du maïs, celui avicole, qui vont complètement s'appuyer sur la dérégulation des prix, la possibilité de s'approvisionner à très bas prix sur le marché national et international, au détriment de cette agriculture paysanne qui représente 80% de la population active dans le secteur.
Et dans ce contexte-là, Éric Léonard, on voit le lien qui peut être fait à partir du moment où on se dit qu'effectivement il y a des petites structures, des petites exploitations paysannes qui voient toute forme de soutien partir, et puis surtout une compétition largement étendue et notamment avec les États-Unis. À partir de ce moment-là, est-ce que les maquiladoras, elles, pour le coup, représentent une sorte de source de revenus potentiels? Est-ce que là encore, après l'ALENA, on a de nouveaux mouvements de population vers les maquiladoras?
Alors on va avoir depuis les régions du centre et du sud, qui étaient les régions paysannes avec une forte proportion de population amérindienne, une explosion des flux migratoires vers la frontière nord en deux directions. D'une part, vers les zones, les bassins d'industrialisation émergents des États-Unis, notamment dans les régions du centre-sud et du sud-est des États-Unis. Et puis, alors, une migration qui est essentiellement masculine, et puis également vers la frontière et les maquiladoras, avec une main-d'œuvre qui est là, par contre, majoritairement féminine pour différentes raisons. C'est une main-d'œuvre beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus facile à conduire, plus docile, peu ou pas syndiquée, moins revendicative, qui accepte évidemment beaucoup plus facilement les abus, des asymétries d'autorité. Une grande partie de cette population migrante va donc être d'origine féminine et s'employer dans le secteur des maquiladoras. Et effectivement, dans cette perspective, les maquiladoras jouent un rôle de coussin d'amortissement du choc d'ajustement imposé par l'ALENA au secteur agricole mexicain, et en particulier au secteur de la petite agriculture paysanne.
Alain Musset, une main-d'œuvre essentiellement féminine et, on pourrait le dire, corvéable aussi à merci. Est-ce là une nouveauté? Est-ce que dès le départ, dès les années 60, c'est cette population-là, ce sont le type d'employés qu'on retrouve dans les maquiladoras?
Il y a eu, je dirais, depuis le début, une très forte composante féminine dans le secteur des maquiladoras. Et exactement pour les mêmes raisons. Mais avec différentes modalités. Eric l'a très bien expliqué. Je veux dire, on a expérimenté dans les maquiladoras la dérégulation du marché, l'affaiblissement des syndicats, le rôle de plus en plus important donné aux investisseurs étrangers. Donc, ça a été un véritable laboratoire social de la dérégulation et de la fin du système de l'État-providence qui était caractéristique quand même du gouvernement mexicain. On a tendance à l'oublier, on peut le critiquer énormément, mais il y avait une politique agrariste qui consistait à réellement défendre la petite paysannerie, à favoriser les classes les plus désavantagées. Moi, j'ai connu l'époque, dans les années 80, Eric aussi, des magasins Conasupo. C'est la Compagnie nationale des subsistances populaires, où on pouvait avoir accès à peu près tous les grands produits de base avec des prix subventionnés par l'État. Ça coûtait une fortune, bien évidemment, mais j'ai moi-même acheté des choses dans des magasins Conasupo. Ces magasins-là, au moment de l'ouverture, à partir du milieu des années 80, l'apertura a été une transformation complète avant même l'ALENA. Donc, c'était des importations qui sont arrivées. Là, on a vu apparaître des produits qui n'existaient pas avant. C'était effectivement nouveau, mais le système a fini par imploser. Ce n'était plus possible de continuer. L'État-providence mexicain est finalement mort, mais cette mort avait été expérimentée dans les usines maquiladoras de la frontière. Donc oui, encore une fois, il faut toujours penser la frontière à différentes échelles. Il y a l'échelle locale, le sud, l'échelle transnationale, nord-sud, l'échelle régionale, la Mexamérique, et l'échelle continentale, puisque les États-Unis, le Mexique et le Canada font tous les trois partie de l'Amérique du Nord. Et on oublie toujours en disant le Mexique, c'est l'Amérique latine. C'est Amérique latine et Amérique du Nord en même temps. Et donc là, dans un système global, globalisé des échanges qui, jusqu'à assez récemment, étaient fondés sur le libre-échange, il fallait effectivement suivre le mouvement. On ne pouvait plus continuer avec l'héritage révolutionnaire.
Vous dites que l'État social mexicain est mort, mais est-ce qu'avant de mourir, il a eu le temps de réussir? On l'a dit, il y avait quand même deux grands objectifs qui étaient à la fois le rééquilibrage territorial nord-sud et aussi une politique industrielle menée tambour battant. Je cite les chiffres que j'ai trouvés dans votre ouvrage, Alain Musset. Vous dites que la part des produits manufacturés, qui n'était que de 16% en 1982, frôle régulièrement la barre des 90% depuis le milieu des années 90. Est-ce qu'on peut voir cela comme un succès de politique industrielle, Alain Musset?
Je ne vois pas comment on pourrait le qualifier autrement. Sauf si on considère que l'industrie manufacturière contribue à la destruction de l'environnement global. Ce qui est vrai. Mais sur le plan de la dynamique économique du Mexique, le Mexique est devenu un pays émergent et plus qu'émergent grâce aux industries maquiladoras, grâce à ce système qui est très critiquable, hein, encore une fois, à bien des égards, mais qui a permis de tout dynamiser. Je veux dire, vous savez que l'ALENA a été remplacée par l'accord Canada-États-Unis-Mexique,
hein,
qui a été signé en 2020, à l'instigation de Trump, et dans lequel on a éliminé le mot de libre-échange. Hein. Mais c'est un ensemble qui existe pour le moment toujours, on verra combien de temps ça va durer, mais qui maintenant réunit près de 500 millions de personnes et qui représente 30% du PIB mondial. Ce n'est pas rien. C'est un héritage de l'ALENA, c'est un héritage à une autre échelle de cette transformation de la région transfrontalière qui a incarné la Mexamérica.
Et cet accord, ou en tout cas cette zone de Mexamérique, est aujourd'hui, on pourrait le dire, menacée aussi par les droits de douane que Donald Trump entend imposer. Alors c'est très compliqué pour suivre cette affaire. Il y a eu des premières déclarations, puis ensuite une suspension de ces droits de douane, tout part le 1er février avec cette annonce de 25% sur les importations mexicaines et canadiennes. Une première suspension, puis une deuxième le jeudi 6 mars, mais qui n'est qu'une suspension partielle et jusqu'au 2 avril qui est présenté comme le jour de la libération par Donald Trump. Très concrètement, Alain Musset, acier et aluminium ne sont pas épargnés hein, par cette hausse de 25% des droits de douane. Selon une estimation, ça pourrait réduire le PIB du Mexique de 0,19% d'ici un an. Est-ce que c'est une vraie menace ?
Alors, avec Trump, oui, on peut considérer que c'est une vraie menace, jusqu'où, encore une fois, le problème, et il s'en est rendu compte, il a dit qu'il y aurait un prix à payer, mais qu'à ce prix, ce serait très très bien. Mais avec lui, c'est toujours mañana, hein, toujours demain. Je dirais, oui, c'est une vraie menace, et le Mexique a très peu de moyens pour répondre. Je dirais, par exemple, pour l'acier, en fait, le Mexique importe plus d'acier des États-Unis qu'il n'en vend. Donc, si on décide de taxer l'acier en représailles nord-américain, l'acier qui est utilisé au Mexique et notamment dans l'industrie automobile va avoir un surcoût, ce qui va surenchérir sur le prix des véhicules qui vont déjà être surtaxés. Donc, ça va être, je veux dire, une course sans fin vers un sommet d'absurdité, puisque le gouvernement mexicain a juste dit, titre a dit, mais on se tire une balle dans le pied à tous les deux. La balle, c'est dans les deux pieds.
On en revient à cette interdépendance.
Est-ce que Trump est capable de comprendre ? J'en sais rien.
Éric Léonard, une autre question se pose. Et si on en revient à nos maquiladoras, finalement, avec ces menaces de hausse de droits de douane, mais aussi, et parce que ça fait partie hein, des échanges, notamment avec la présidente du Mexique, mais aussi une attention plus resserrée, on va dire, des contrôles aux frontières dans le but de lutter contre le passage illégal du fentanyl et aussi dans le but de lier contre le narcotrafic. Est-ce que ces menaces-là restent une épée de Damoclès au-dessus du Mexique, et puisqu'il n'y a pas un risque de voir toute la population employée par ces maquiladoras, voir les portes de ces maquiladoras fermées, et donc de se retrouver dans une situation extrêmement précaire.
Alors, moi, je voudrais relativiser les risques. De très nombreux de ces maquiladoras sont d'abord, comme le disait Alain, c'est des sociétés de capitaux mixtes dans lesquelles des macro-entreprises nord-américaines, en particulier dans le secteur industriel, automobile, sont très fortement représentées. Donc, il y a des enjeux de surcoût pour l'industrie américaine qui tient au fait que les infrastructures sont en place, que la logistique est en place, mais également au fait que le rapatriement de ces activités aux États-Unis implique un surenchérissement considérable des prix en termes de main-d'œuvre. Et donc, un impact inflationniste potentiel qui, je pense, va relativiser ou au moins entrer en ligne de compte dans les décisions finales. Donc, je suis plus que dubitatif face aux gesticulations de Trump. Effectivement, le risque qui se présente au Mexique, c'est un risque majeur de déstabilisation de ces zones de frontières dans une économie qui est très, très fortement déjà infiltrée par les groupes criminels et par les cartels.
Un risque qui risque effectivement de s'aggraver au fur et à mesure que les frontières sont davantage surveillées et se referment. C'est un risque que vous avez notamment soulevé. En tout cas, cette émission est en train de se terminer, donc il est temps pour moi de vous remercier infiniment tous les deux, Éric Léonard et Alain Musset, d'avoir participé à cette émission.